Vincent Stecklin.
Le Conseil fédéral souhaite relancer les négociations avec les États-Unis suite à l'imposition de droits de douane de 39% sur les produits suisses. Il réfute l'analyse de Donald Trump sur le déficit commercial entre les deux pays. Ces droits de douane auront un impact sur la Suisse et le monde. Le président américain a annoncé sa décision la nuit dernière en publiant une liste détaillant les montants pour les pays qui n'étaient pas encore au clair. Pour la Suisse, l'addition est lourde. La surtaxe de 39% qui la frappera à partir du 7 août est la plus élevée d'Europe et l'une des plus fortes au monde. Ce taux constitue une surprise et une déception car le montant négocié avec les membres du gouvernement américain était bien inférieur, a déclaré la présidente de la Confédération, Catherine Keller-Sutter. L'officialisation des nouveaux droits de douane américains a fait passer ces vendredis les bourses mondiales dans le rouge, même si le report de leur application au 7 août conduit plusieurs pays à négocier jusqu'au dernier moment avec Donald Trump pour éviter des surtaxes trop importantes. Certains pays asiatiques se félicitent des accords trouvés, d'autres, du Canada à la Suisse, sont sous le choc de ces nouvelles barrières commerciales parfois prohibitives. Le président américain Donald Trump a donné jusqu'à vendredi prochain à son homologue russe Vladimir Poutine pour mettre fin à la guerre en Ukraine sous peine de sanctions. Le président russe assure aujourd'hui vouloir une paix durable en Ukraine, mais il rappelle que les conditions russes pour l'atteindre restent inchangées. Moscou demande la cession de 4 régions du sud et de l'est de l'Ukraine, ainsi que la Crimée, la démilitarisation du pays et son renoncement à rejoindre l'OTAN, ce que Kiev juge inacceptable. Volodymyr Zelensky a lui invité le président russe à se rencontrer, ce qu'il a déjà réclamé plusieurs fois sans succès. L'émissaire américain Steve Witkoff est en visite dans la bande de Gaza dévastée par la guerre. Il promet d'y augmenter l'aide humanitaire au moment où la pression s'accentue sur Israël face aux pertes humaines dans le territoire palestinien affamé. En amont de cette visite de l'émissaire du président Donald Trump, l'ONG Human Rights Watch a fustigé le système de distribution d'aide mis en place par Israël et les États-Unis via la Fondation humanitaire à Gaza, qui est devenue, selon elle, un piège mortel pour les Gazaouis. En tennis, Victoria Golubic jouera à la finale de Varsovie demain samedi. La Zurichoise s'est imposée ce vendredi en demi-finale face à la Tchèque Dominika Salkova 7-5, 6-1. Victoria Golubic, vice-championne olympique du double en 2021 avec Belinda Bencic, tentera de soulever un premier titre cette année. En finale, elle affrontera une autre Tchèque, Katerina Siniakova. Quelques averses et des orages isolés ce soir, surtout en Ajoie le long des Préalpes. Le ciel se couvrira cette nuit avec des orages localement intenses, surtout en seconde partie de nuit. Des nuages demain avec encore des averses orageuses le matin. Le ciel se dégagera au fil des heures avec de belles éclaircies l'après-midi. 13 degrés en pleine la nuit prochaine, 21 l'après-midi.
L'actualité en continu sur l'application RTS Info.
Yalla ! En avant !
Bonjour, c'est Sidney Fierro. Chaque dimanche matin, je vous invite à parcourir de nouveaux horizons en quête du sacré. La musique sacrée que nous connaissons, bien sûr, celle qui nous est familière, mais aussi celle d'autres cultures, au-delà des religions. Dans Matine, on parle des grandes épopées, des petites histoires d'hommes et femmes qui cherchent la lumière. On voyage dans le monde en quête de notre humanité, le tout en musique, bien sûr. Matine, c'est tous les dimanches, de 7h à 9h, sur RTS Espace 2.
Les références, Julian Sykes.
Dernière émission de la semaine consacrée au pianiste Vlado Perlmutter, un grand interprète de la musique de Ravel dont on célèbre en cette année 2025 le 150e anniversaire de la naissance. Bienvenue.
Les valses nobles et sentimentales sont pour moi une des œuvres les plus difficiles de Ravel, justement parce qu'il n'y a pas beaucoup de notes.
Thank you.
la première des valses nobles et sentimentales de Ravel, un enregistrement studio de l'année 1973 pour la radio baloise. Un enregistrement qui permet d'entendre ce son un peu claqué que voulait Ravel pour l'attaque des accords. Vlado Perlmutter, un pianiste qui a traversé tout le XXe siècle et qui a connu Ravel, il l'a approché dans la deuxième partie des années 20. Il a même reçu ses conseils en lui rendant visite dans sa maison de Montfort-l'Amaury, située à 45 km de Paris. Mais Perlmutter était clair. « Je n'ai pas été l'élève de Ravel », disait-il. « J'ai étudié seul toute son œuvre pour piano publiée. Puis, quand j'ai été prêt, je suis allé le voir chez lui pour lui jouer ses pièces et recevoir ses conseils et corrections. » Perlmutter a conservé toutes les annotations portées par Ravel sur ses partitions. Il y avait passablement de corrections qu'appelaient les fautes des éditions imprimées. Il les a ensuite transmises à ses élèves et à d'autres pianistes. Et il est devenu une autorité sur Ravel. Il était dépositaire du style ravelien, malgré lui, car c'est un rôle qu'il n'aimait pas beaucoup jouer. Évidemment, Perlmutter jouait cette musique magnifiquement. Et on va l'entendre d'ailleurs dans son enregistrement officiel pour la firme Nimbus des valses nobles et sentimentales. On entendra aussi ses commentaires sur la façon d'interpréter cette œuvre à l'occasion d'un cours d'interprétation qu'il donnait en 1987 au studio Ernest Ansermet de Genève. Il avait 83 ans à l'époque et il zozotait un peu, mais ça a tout son charme.
On pourrait dire à propos des valses nobles ce que Saint-Saëns a dit à Fauré à propos de Thème et Variation. Saint-Saëns lui a dit « C'est admirable, mais on ne te jouera jamais. » Alors Fauré était un peu interloqué. Il dit « Oui, parce que tu finis piano. » Les valses nobles, nous verrons tout à l'heure, c'est pas qu'elles finissent piano, elles s'éteignent dans un espèce de rêve. Le tout, justement, pour l'interprète, est de ne pas en faire une chose ennuyeuse et trop lente. Il ne faut pas que les auditeurs baillent tout ce qu'ils peuvent à la fin de ce qu'on appelle l'épilogue. Il faut toujours garder une certaine densité. L'autre remarque à propos que je trouve intéressante de vous dire, c'est qu'il m'a dit « Je voudrais écrire une suite de valses dans le genre de Schubert, des valses viennoises. » Et les valses nobles, sauf une valse qu'on a appelée la grande valse, reprennent à peu près un thème du poème symphonique. Les valses nobles et sentimentales sont pour moi une des œuvres les plus difficiles de Ravel, justement parce qu'il n'y a pas beaucoup de notes. Et puis parce que les recherches harmoniques sont très audacieuses. Et Ravel considérait les valses nobles et sentimentales comme son grenier. Quand il avait besoin d'une certaine harmonie recherchée, il allait chercher dans les valses nobles et sentimentales. Et à l'époque, on ne s'étonne pas que les valses nobles n'aient eu aucun succès, parce qu'il y a certainement la plus grande acidité harmonique, n'est-ce pas, des œuvres de Ravel. Mais Ravel était très attaché aux valses nobles et sentimentales. Peut-être comme une réaction naturel, j'ai déjà vu ça chez certains compositeurs, une certaine affection de leurs œuvres qui ne sont pas jouées. Quand je les ai jouées moi-même, à Ravel, en 27, moi-même, je ne les avais pas entendues. Il attachait beaucoup d'importance à la régularité de tatatam, papapam. Si vous jouez trop vite, ça fait au lieu de tatatam, papapam, tatatam. Comme ça, c'est beaucoup mieux. Ravel m'avait dit qu'on pouvait mettre deux pédales, c'est-à-dire une sur le premier temps qui déborde un peu sur le second et pas du tout sur le troisième, à condition qu'on ne fasse pas tic. Ça fait ta-ta-tam, pa, ta-ta-tam, pa. Ou alors, la pédale carrément seulement sur le troisième temps.
Vlado Perlemutter en 1987.
Autre indication de Ravel qui est extrêmement rare. Comme le passionné tout à l'heure de la sonatine, rubato, je ne trouve ça que dans les valses. Et c'est seulement dans les valses qu'on trouve aussi souvent expressif, très expressif, avec grande expression. Vous voyez que nous sommes loin du Ravel froid et ingénieux et mécanique pour lequel on a voulu le faire passer. C'est un certain lyrisme qu'il faut savoir saisir. Il faut vous dire que Ravel adorait Chopin, comme Debussy d'ailleurs adorait Chopin. Et le rubato était bien ça. Vous prenez d'un côté ce que vous rendez de l'autre. C'est-à-dire que vous pressez un tout petit peu et puis la fin est un petit peu traînante.
Thank you.
Un extrait des valses nobles et sentimentales de Ravel par Vlado Perlemutter dans son enregistrement pour la firme anglaise Nimbus. En 1987, Perlemutter avait aussi abordé la sonatine de Ravel à l'occasion de son cours d'interprétation à Genève. C'est une œuvre assez singulière, qui peut paraître un peu mineure en raison de son titre, mais qui recèle les qualités de Ravel, la poésie, l'art de la minutie et l'imaginaire. Perlemutter essayait de transmettre cette idée aux étudiants pianistes qui assistaient à son cours.
La sonatine est une, vous le savez, une œuvre importante dans l'œuvre de Ravel. Évidemment, elle n'est pas importante par la dimension. Ça n'a rien à voir avec le hammerklavier, évidemment, n'est-ce pas ? Mais tout y est, comme généralement chez Ravel. Et la difficulté, pour moi, est l'élément polyphonique que l'on trouve surtout dans le premier mouvement et, évidemment, la difficulté du final, je parle de difficulté technique, n'est-ce pas, du final qui dépasse le reste.
Thank you.
de l'entrain dans ce final de la sonatine de Ravel qu'on écoutait intégralement, c'était Vlado Perlemutter dans un enregistrement en décembre 1972 à Tokyo pour la firme Denon. Alors on va retrouver Perlemutter dans une autre archive. Cette fois-ci, il parle du bureau de Ravel dans sa maison de Montfort-l'Amaury où le compositeur a vécu de 1921 jusqu'à l'année de sa mort en 1937. Cette maison s'appelait le Belvédère. Elle a été transformée en musée depuis et c'était dans la campagne pour que Ravel ait une certaine tranquillité à une distance raisonnable de Paris. Vlado Perlemutter.
Nous sommes un peu en dehors de la musique et de ce que vous voulez dire. Son bureau était petit comme tous, si vous, ceux d'entre vous ont vu Montfort-l'Amaury, c'est un peu comme des cabines de bateaux le long d'un quai. Enfin, ce sont des petites pièces à la dimension de Ravel qui était petit. Le bureau était pris en grande partie par un quart de queue rare, j'ai déjà dit, très mauvais. Et il y avait un immense bureau, il se tenait là, pas de trace de manuscrit, pas de trace d'essai, pas de trace du travail que faisait Ravel. Je ne sais pas ce qu'il en a fait, on n'en a pas trouvé. Est-ce qu'il le brûlait à mesure? Est-ce qu'il les faisait disparaître? En tout cas, je n'ai jamais vu sur le bureau et sur le pupitre du piano traîner des essais de travail. Et pourtant, il travaillait beaucoup. Ravel n'était pas un compositeur qui écrivait facilement. Il révisait beaucoup, il approfondissait énormément. Et je ne suis pas le seul à faire cette remarque. Roland Manuel, qui a vraiment été l'exégète de Ravel, qui a écrit, n'a jamais vu non plus de manuscrit. Alors, je vous disais, au point de vue de la puérilité, il y avait sur le piano des oiseaux mécaniques, par exemple, n'est-ce pas, et qui chantaient. C'est plap, 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 ta-ta, ta-ta, qui me fait penser à ça. Il avait des goûts, je ne peux pas dire enfantins, mais il aimait ces choses un tout petit peu naïves. Et je me souviens très bien, c'est vrai, elles sont encore là, d'ailleurs, on a eu la bonne idée de respecter la plupart des choses. On a pris malheureusement sa bibliothèque, je ne sais pas ce que c'est devenu. Il avait une bibliothèque musicale très intéressante. Il adorait Scarlatti, il y avait presque toute l'édition de Longo, et ça a disparu. Je n'ai pas retrouvé ça quand je suis revenu jouer, parce qu'on a donné une télévision depuis de Montfort-l'Amaury. J'ai participé à cette émission, et j'ai retrouvé avec pas beaucoup de plaisir les rares, mais enfin c'était très émouvant pour moi, de jouer dans la pièce où Ravel avait un grand bureau où il était tout petit, n'est-ce pas, il assistait à ça. Et il écoutait avec énormément de concentration. C'est un homme qui devait pouvoir se concentrer d'une façon exceptionnelle. Cette imitation, n'est-ce pas, des plop, 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 me reporte à ce bureau avec ses oiseaux mécaniques. Ah oui, il y avait toujours des petites horloges aussi, avec des tic-tac, comme dans l'heure espagnole. Ça me fait penser à ça.
Les premières mesures de l'heure espagnole de Ravel, dans un enregistrement magnifique d'ailleurs par Laurine Mazel et l'Orchestre National de la RTF. Vlado Perlmutter a aussi enregistré les deux concertos de Ravel, celui en sol majeur pour les deux mains et celui pour la main gauche, une œuvre très spéciale d'un sol tenant, composée à l'origine pour le pianiste autrichien Paul Wittgenstein qui avait perdu l'usage de la main droite à la Première Guerre. Perlmutter parle ici au micro de Roger Aubert, directeur de Radio Genève dans les années 60. L'interview date de mai 1967.
Puisque nous sommes sur le thème du concerto de Ravel, des concertos de Ravel, puisque vous avez joué au Japon les deux concertos, voudriez-vous dire pour notre public d'amateurs de musique, quelles sont vos préférences dans ces deux concertos, si on peut préférer l'un de ces deux chefs-d'œuvre?
Oui, je dois dire que, est-ce par un concours de circonstances, est-ce par un goût personnel, je joue davantage le concerto pour la main gauche que celui des deux mains. Ce sont deux concertos absolument dissemblables, d'ailleurs même dans l'esprit de Ravel. Ravel a voulu, pour le concerto des deux mains, écrire un concerto dans le style, avec son, naturellement son vocabulaire personnel, dans le style d'un concerto de Mozart, c'est-à-dire avec un accompagnement d'orchestre assez léger. Il trouvait en quelque sorte comme une réaction contre les grands concertos du style Rachmaninov. Un
répertoire post-romantique.
Post-romantique. Voilà. Oui. Et il a été comme, chez Ravel, il arrivait souvent que fouetté par une espèce d'acrobatie d'écriture, il se trouve que le concerto pour la main gauche est lui beaucoup plus chargé et beaucoup plus dramatique. Et c'est non seulement la dernière œuvre de piano de Ravel, ce qui lui donne un sens presque prophétique. On dirait que le fait d'écrire pour une seule main, et c'est bien le paradoxe ravelien, lui a inspiré des pages qui sont beaucoup plus chargées que celui du concerto des deux mains. En tout cas, il y a un côté certainement tragique, et l'influence de jazz qui se fait sentir dans les deux concertos, mais sous un aspect absolument différent, prend en effet ce caractère rythmique de l'allegro du concerto pour la main gauche, qui est au fond un rythme de jazz, prend un caractère extrêmement tragique, dramatique.
Thank you. Thank you.
La fin du concerto pour la main gauche de Ravel dans l'enregistrement de Vlado Perlmutter avec Yasha Hornstein et l'orchestre des concerts Colonne. Perlmutter fut le premier à donner l'intégrale de l'œuvre pour piano de Ravel en deux récitals en 1929 à Paris. On a un témoignage de cette double soirée paru dans le journal Le Ménestrel en décembre 1929. Maurice Ravel était là l'autre soir, a écrit le journaliste, pour féliciter précisément M. Vlado Perlmutter d'une technique éblouissante qui n'escamote aucun des traits, mais sait mettre en valeur, comme une rose sur des gris, une note gravement profonde ou une note fragilement haut-perchée. Fin de citation. Alors on va écouter Ravel encore, « Jeu d'eau », l'une de ses pièces les plus aimées, les plus connues. La voici par Vlado Perlmutter dans un enregistrement radiophonique des années 70.
Thank you.
Vlado Perlemutter dans Jeux d'eau de Ravel, un enregistrement radiophonique pour la radio de Bâle en 1973. Perlemutter a donné son premier récital à Genève en 1919, à l'âge de 15 ans, et il a donné son récital d'adieu à Genève aussi en mai 1993. Il a formé beaucoup d'excellents pianistes, on pourrait citer Michel D'Alberto, Jacques Rouvier et Christian Zacharias. Il s'est éteint le 4 septembre 2002 à Neuilly-sur-Seine. Il laisse une riche discographie qui va d'ailleurs bien au-delà de Chopin et de Ravel. Mais on va se quitter avec Ravel, pourquoi pas, et surtout cette pièce magnifique, la suite pour piano à quatre mains, Mamerlois, qui nous emmène dans une atmosphère de conte et de féerie. Perlemutter joue ici avec le pianiste Adrian Farmer, qui a été le directeur artistique de sa maison de disques Nimbus. On commence par Laidronette, impératrice des pagodes avec ses jolies gammes pentatoniques.
Thank you.
On se quitte sur cette musique de Ravel, soi-disant enfantine, c'est ce qu'on a dit, mais plus sophistiquée que ça, la suite Mamerloi par Vlado Perlemutter et Adrian Farmer. Voilà, c'est ainsi que se termine cette série sur Vlado Perlemutter, un être pudique, discret, généreux, attachant. Chaque épisode de la série est disponible en podcast sur le portail audio de la RTS. Un grand merci à Jean-Philippe Zwalon pour sa réalisation. Il me reste à vous souhaiter une bonne fin de semaine et puis j'espère vous retrouver tout bientôt pour une nouvelle série des références. RTS Espace 2, il est 23h. Tout de suite, le bulletin d'information suivi de Zone Bleue.